Alors bonjour à tout le monde. Je suis vraiment content de voir Lynn parmi nous. Je ne veux pas dire quand je l'ai baptisée, mais maintenant tu sais qu'elle a 40 ans et je crois que j'ai présenté Jérémy au Seigneur Jésus-Christ il y a des années au 610 Marie-André, Avenue Belvedere. Elle était là aussi et peut-être Jean. Alors, je suis content que vous êtes là. Et la famille Martin qui est là parmi nous ce matin. Alors, je dois prier de nouveau parce que j'en ai besoin. Hein? Oui, Père Céleste, nous voulons te louer ce matin que nous pouvons venir ici dans toute liberté de chanter, de louer, de prier et d'annoncer la parole merveilleuse de la parole de Dieu. Oui, Père Céleste, nous te bénissons ce matin pour tous tes bienfaits envers nous. Nous voulons reconnaître que tu es là parmi nous par ton Esprit Saint. Et nous te demandons que tu nous diriges et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié au nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Alors, je voudrais vous demander de chercher Jean 13, vous avez la Bible avec vous ce matin. Alors, c'est là. Alors, vous savez que les chapitres 13 à 17 constituent un message d'adieu de Jésus-Christ à ses disciples. Moi, j'ai toujours considéré que parmi ces cinq chapitres dans la Bible, ils sont peut-être les plus importants. Il y a beaucoup de vérités profondes dans ces cinq chapitres. C'est vraiment quelque chose à méditer. Cela devrait mériter vraiment notre attention jour après jour. Et dans les chapitres 13 à 17, alors j'ai noté que 16 fois, soit le mot « gloire » ou « glorifier » ou « glorifiera » se trouve 16 fois. Et cela me dit quelque chose ce matin. Et c'est pourquoi je suis attiré sur le thème « Atteindre la gloire ». Alors, je vais lire les versets 31 à 35 de Jean. Si vous avez la Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. « Lorsque Judas fut sorti, c'est celui qui avait trahi Jésus-Christ, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, comme je viens de dire mon thème, Christian, tu peux passer? Oui. Comme, c'est Michel qui l'a maintenant. Comme je viens de dire, mon thème ce matin, c'est atteindre la gloire. Le mot gloire signifie beaucoup de choses, comme la louange, l'honneur, la distinction, le bonheur céleste. Tous les chrétiens vont expérimenter le bonheur céleste un jour. Le triomphe, la réputation, le renom. Mais la gloire signifie aussi la reconnaissance de ce que nous sommes. Et c'est là où je mets l'accent ce matin. C'est la chose principale dans mon message ce matin. La reconnaissance de ce que quelqu'un est. Par exemple, on peut dire que Francine, elle est très fidèle dans l'enseignement vis-à-vis des enfants dans l'école du dimanche. Ou on peut dire qu'il est fidèle dans l'évangélisation. C'est ce que quelqu'un est. Et dans un sens juste, je crois que c'est quelque chose que nous voulons tous. Nous voulons être reconnus, honorés. Nous voulons porter du fruit, par exemple. Et cela fait partie de notre appel. Je lis dans 1 Corinthiens 6, au verset 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors, nous étions rachetés par le sang si précieux de Jésus-Christ pour que nous puissions rendre gloire à Jésus. Et Dieu veut que nous soyons reconnus, honorés, pour qu'il puisse à son tour recevoir la gloire. Alors, dans mon texte que nous venons de lire tout à l'heure, il y a quelque chose, quelques principes qui nous aident à atteindre la gloire. Il y a tout d'abord une vérité à atteindre et une puissance à découvrir. Mais tout d'abord, je vois dans notre texte qu'il y a deux manifestations divines de la gloire de Dieu. Et je voudrais lire maintenant dans Jean 17, au verset premier, juste pour soutenir cette pensée. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, et glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et dans le 13e chapitre, au premier verset, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siennes qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Et un dernier verset qui dit, au verset 23, chapitre 12, « Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire, la phrase « L'heure est venue » Alors, je crois que cela se rapporte à sa mort et son départ qui auront lieu bientôt. Jésus parle de ces faits dans la parole de Dieu comme quelque chose qui était déjà accompli. Et j'aimerais mentionner quelque chose au sujet de la gloire de Jésus comme du point de vue humain. C'est-à-dire que sa mort, on le comprend très bien ce matin, signifie la souffrance, la douleur, la peine, la punition, le mal. Pourtant, il était reconnu comme le sauveur qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ était loué tout de suite par des milliers, des multitudes de personnes. Et c'est vraiment un beau message ce matin, qu'il est venu nous chercher, nous sauver, enlever nos péchés. Vous savez, les pécheurs peuvent être pardonnés, peuvent être sauvés, peuvent être réconciliés avec Dieu. Et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. L'avez-vous expérimenté dans votre vie, ce que nous appelons la nouvelle naissance? C'est-à-dire que Dieu nous a pardonné, il nous a réconciliés à lui-même et nous sommes les enfants qui sont sur le chemin qui mène au ciel parce que nous avons été rachetés, nous l'avons reçu la personne de Jésus dans notre vie. Alors, il était reconnu comme le sauveur, il était glorifié comme cela. Et du point de vue divin, alors, cela signifie que Jésus va retourner au ciel. Et nous lisons dans Jean chapitre 17, au verset 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre. Excusez-moi, c'est le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Alors Jésus-Christ va partager de nouveau la gloire qu'il avait avant son incarnation. Certaines choses ont été mises de côté lorsqu'il est devenu s'incarner, devenu un être humain. Alors, en deuxième temps, le Père est aussi glorifié. Comme nous l'avons déjà lu dans le verset 17, dans le verset 1er, chapitre 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Alors, Jésus-Christ était glorifié, mais son Père aussi. Il était glorifié dans la mort de son Fils Jésus-Christ, qui avait achevé l'œuvre que son Père lui avait donnée. « Je t'ai glorifié sur la terre » dans Jean 17 au verset 4. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Son œuvre a compris la prédication, l'enseignement comme nous voyons dans le sermon sur le mont, les miracles, la formation de ses disciples, et aussi il a fait connaître d'après le verset 6, toujours Jean 17, « Maintenant, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as demandé du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Alors, il a fait connaître la personne, la nature de Dieu par son comportement, par sa manière de parler, d'agir et réagir. Et du point de vue, la deuxième partie, concernant le Père qui a été glorifié. Alors, on voit qu'il était, Jésus l'a aussi glorifié par il a manifesté dans sa vie ses attributs comme la compassion, la sainteté, sa justice. Sa mort de Jésus-Christ avait satisfait l'exigence de Dieu le Père, qui a dû punir le péché. Mais Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu, le substitut de l'homme, et il a payé la pénalité du péché, et cela a satisfait la justice de Dieu. Alors, nous voyons dans Romains chapitre 8, au verset 1er, qu'il n'y a plus maintenant pour l'homme sauvé par la foi la condamnation. Donc, il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau. Alors, la question que je pose maintenant, Michel, le troisième, quatrième écran, alors comment pouvons-nous atteindre la gloire d'être quelqu'un qui est reconnu, quelqu'un qui se plaît à Dieu et aux autres, qui est une bénédiction pour la famille de Dieu? Est-ce que c'est vraiment possible de devenir cette sorte de personne qui est reconnue, honorée par Dieu? Alors, je crois que oui, c'est très possible, mais comme je viens de mentionner, il y a une vérité à accepter. En pensant à cela, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que je dois changer? Est-ce que c'est peut-être un secret qui n'est pas tout à fait connu au milieu des enfants de Dieu? Mais quand même, on voit, comme dans tous les cas, Jésus-Christ est notre exemple. Et un verset clé sur lequel je bâtis vraiment mes pensées pour le reste de ce message, et un message qui a vraiment changé ma vie, je ne serai jamais la même personne qu'auparavant lorsque j'ai entendu certaines choses que je vais partager avec vous. Mais dans Jean chapitre 12 au verset 24, c'est un verset que vous devez graver dans la mémoire, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, moi, je vois dans ce texte et dans le contexte de ces chapitres, que Jésus-Christ s'en sert d'un grain de blé pour illustrer cette grande vérité spirituelle qu'il n'y a pas de gloire personnelle. Et on ne peut pas vraiment atteindre ce que Dieu veut que nous soyons sans la mort. Et Jésus-Christ, il est devenu ce grain de blé qui a été planté à la croix et il a porté du fruit. J'ai voulu mettre ces grains de carottes, les semences de carottes, n'est-ce pas, sur un papier, mais on ne peut pas vraiment les voir. C'est très, très, très petit, n'est-ce pas? Et moi, je ne peux pas comprendre comment cela se produit une carotte, n'est-ce pas? Mais alors, si on peut avoir le prochain écran, alors c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Non, pas ce verset-là. Oui, l'écran avec les semences et les carottes. Ah, c'est là. OK, mais les petits bonhommes, là? Ah, ça vient, OK. C'est-à-dire, c'est difficile à comprendre que vous mettez une semence dans votre main, que ça peut produire quelque chose. Il y a la vie en elle-même quand même. Et elle n'est jamais utile, productive, à moins qu'elle soit plantée. OK? Et lorsque nous plantons les semences de carottes, et peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire un jardin? OK, vous avez eu la main en premier. Ça coûtait $1.76, mais je te le donne gratuitement. N'est-ce pas? Mais ce que j'ai voulu mentionner, que nous sommes aussi comme des semences. Et nous avons la vie en nous-mêmes. Nous avons le Saint-Esprit qui nous habite. Alors, on l'a déjà lu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et à moins que nous soyons plantés comme Jésus-Christ était planté à la croix, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous devons être plantés et nous devons être plantés avec Jésus-Christ, et cela a déjà eu lieu. Et par la foi, nous le reconnaissons et nous l'expérimentons dans nos vies. Ça, c'est la vérité à expérimenter. Alors, je suis avancé un petit peu, mais le fruit que Jésus-Christ avait apporté, ce sont ceux qui ont entendu parler de Jésus, qui ont cru le message de la croix, qui l'ont reçu comme sauveur personnel, et ils sont devenus enfants de Dieu. C'est bien fait, Michel. Je dois le féliciter. Et ils font partie du corps de Christ. Et ces personnes-là sont membres des églises locales. Alors, je ne sais pas, c'est Jean qui est vraiment sage, n'est-ce pas? Il comprend tout. Mais du Berger, c'était au 610 Avenue Belvedere, où nous étions. J'étais aussi à Rimouski, et Farnham, et Noyon. Et maintenant, je suis parmi vous. Et ce sont les églises dans lesquelles j'avais eu le privilège et la joie de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme je dis, Jésus-Christ avait produit du fruit. Et si nous voulons porter du fruit nous-mêmes, nous devons participer. Nous devons réaliser que, si vous pouvez passer, Michel, oui, c'est déjà passé. Peut-être, ça c'est pour illustrer, n'est-ce pas, les semences de carottes. Mais si nous voulons apporter du fruit dans notre vie, nous devons réaliser et nous devons accepter par la foi que nous étions crucifiés avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si le verset sera là, sur l'écran, mais nous lisons dans Galates, chapitre 2, au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. OK, c'est là sur le coin, l'écran. Et peut-être juste un autre verset pour pouvoir porter du fruit. Nous devons nous identifier avec Jésus-Christ dans sa mort. Et c'était cela a déjà eu lieu. Mais dans le 1 Corinthiens 15 au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La phrase « non pas moi » est vraiment importante. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui produit tout cela en moi par sa grâce. Et il me donne la puissance. Alors, ce n'est pas toujours facile. J'ai essayé de chercher une illustration vis-à-vis d'une interview que mon petit-fils avait à la télé hier sur les voisins, lorsque ça ne marche pas bien. Mais je peux comprendre que ce n'est pas toujours facile à vivre cette vie victorieuse en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un conflit, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et la chair ne veut pas peut-être être gentil, par exemple. Je peux dire juste qui vient à mon esprit, si j'avais un voisin qui avait un arbre et une branche qui était suspendue au-dessus de mon terrain et je n'aime pas ça et je commence à me fâcher au lieu d'être gentil et peut-être discuter avec lui, prier bien sûr. Alors je me fâche et je ne suis pas contrôlé par Dieu. Je ne suis pas sur l'influence du Saint-Esprit. Et alors, ce n'est pas toujours facile. Il y a ces luttes, ces difficultés, parce que la chair lutte contre l'Esprit qui habite en nous. Et nous lisons dans Galates, chapitre 5, au verset 17 et 17. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair, c'est-à-dire notre nature pécheresse, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a contraire à eux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et comme nous lisons dans Romains chapitre 7, peut-être à partir du verset 14 à 15, « Alors, ce que je dois faire, je ne le fais pas. Ce que je ne dois pas faire, je le fais de temps en temps. » Et il y a toujours ce conflit. Malgré tout cela, Dieu s'attend à ce que nous portions du fruit. Si tu veux changer ça encore. Oui, c'est ça que nous lisons dans Jean 15, 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors, si vous pouvez mettre ces... vous avez ça, les six? Oui. OK. Oui, je n'ai pas l'intention de lire tous ces versets, mais on a toujours pensé que vous êtes appelés pour aller porter du fruit. Il s'agit de gagner des âmes à Jésus-Christ. Cela est compris par le moyen de notre témoignage. Et par exemple, j'ai trouvé plusieurs références. Si vous voulez noter, je vois que Jessica, ça bouge avec son stylo là. Alors, on voit dans plusieurs références de la parole de Dieu que le fruit, c'est les âmes sauvées. Il s'agit aussi de la santé, la sainteté plutôt. C'est-à-dire, nous croissons à la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le fruit de la générosité financière. Et cela se trouve dans le chapitre 15, le contexte là. Il y a aussi le bon caractère, comme nous voyons dans Galates chapitre 5, au verset 22 et 23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Et c'est une ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi les bonnes œuvres que je voudrais en mentionner quelques-unes dans un instant. Mais aussi la louange, comme nous participons à la louange ici ce matin. C'est aussi quelque chose qui vient de Dieu. Alors maintenant, je vais passer au deuxième principe. Il n'y a pas seulement une vérité à saisir, n'est-ce pas, à accepter le fait que nous étions crucifiés avec Jésus-Christ, mais il y a aussi le principe de l'amour, un principe à découvrir, c'est l'amour, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, j'ai trois versets clés qui couvrent ce principe de l'amour. Je dois noter quand même que l'amour de Dieu a été répandu dans notre esprit, dans nos corps, par le Saint-Esprit plutôt. Et moi, j'ai choisi juste trois versets que je vais résumer parce que l'amour s'explique dans ces versets. Marc chapitre 10 au verset 5, car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, le mot clé, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et aussi dans 1 Jean chapitre 3 au verset 16 et 17 et 18, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors, tout d'abord, juste pour souligner le fait que vous pouvez accomplir cette tâche, cette responsabilité de manifester l'amour les uns envers les autres. Alors, comme Sonny vient d'enseigner à plusieurs dans l'Église, alors, nous sommes équipés par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous aide, qui nous donne la capacité de servir Dieu. Et en gros, nous voyons que l'amour se manifeste par l'activité. L'amour est actif et personnel. L'amour fait les sacrifices. L'amour sert. Alors maintenant, et Jean, notre frère François, il est vraiment content si je dis quelque chose au sujet des Canadiens, n'est-ce pas, qui vont gagner la prochaine fois. Mais vous savez, il semble qu'il y a beaucoup de croyants qui sont comme les spectateurs dans les estrades, n'est-ce pas? Et peut-être à la télé. Mais Dieu veut qu'ils soient les participants, soit sur la glace ou le terrain de football ou de soccer. Et il veut que nous faisons partie, n'est-ce pas, de cette activité spirituelle. Et il a donné un don, une capacité spirituelle par laquelle vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez manifester cet amour. Alors, comme je viens de le dire, l'amour est actif. Il fait des sacrifices. Comme Jésus a donné sa vie, nous pouvons donner notre vie pour quelqu'un. S'il s'agit peut-être parfois de donner notre argent ou peut-être nos choses matérielles, n'est-ce pas? Mais on doit le faire pour la gloire de Dieu. Alors, 1 Jean nous parle de celui qui parle en parole et avec la langue. On peut peut-être manifester jusqu'à un certain point l'amour par les paroles. Mais si on ne fait pas quelque chose, cela ne sert à rien. Comme il dit au verset 17, Jean 3, 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Alors l'amour ne demeure pas en lui. Alors on doit aimer avec, comme il le dit, en action et en vérité, avec quelque chose qui vient de notre cœur. Alors, est-ce que je dois dire quelques exemples? Je vais le faire, mais en pensant où pouvons-nous servir Dieu? Où pouvons-nous aimer le corps de Christ? Alors, on pense à nos moniteurs et monitrices de l'école du dimanche qui sont sortis tôt, et peut-être le groupe de jeunes ou l'équipe de louanges qui fait partie de cela chaque dimanche. L'évangélisation, de temps en temps, il y a certains qui prêchent en plus que Michel et Sonny, il y a d'autres qui prêchent dans l'église. Alors, on a parlé des contributions financières. On peut peut-être envoyer un mot d'encouragement. Mes excuses, Michel, mais j'ai entendu qu'il avait dit, je crois que c'était Elisabeth, qu'il avait presque un cœur brisé ou il avait une crise là, parce qu'il avait reçu une lettre de Richard. Et il a dit que c'était la première fois qu'il avait reçu une lettre dans sa vie. Alors, c'est vrai, on n'écrit pas beaucoup les lettres, mais on peut envoyer les courriers, les mots d'encouragement. On nous a donné une petite carte de 3x5 et dans les églises que j'ai fréquentées dans le passé aux États-Unis, on nous a donné une petite carte, c'est pour écrire un mot d'encouragement. Quelqu'un qui souffre, qui a besoin de l'amour de Jésus à travers de vous. On peut amener quelqu'un à l'hôpital. Je pense à notre frère Donald, il est là, caché en arrière. Je ne le vois pas, mais c'est notre ancienne Marc qui l'a amené à l'hôpital. On peut amener quelqu'un pour voir un médecin. On peut prendre la place d'un couple qui ont des enfants et garder les enfants et pour qu'ils puissent sortir, avoir une distraction, quelque chose comme cela. On peut faire l'épicerie pour quelqu'un. Alors, on peut faire toutes sortes de choses pour manifester l'amour de Dieu. Alors, je vais conclure maintenant avec juste quelques remarques ici. C'est que Dieu le Fils et Dieu le Père étaient glorifiés. On l'a vu, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est devenu le Sauveur. Il a été bien reconnu par le monde. Et il est rentré au ciel, partager la gloire qu'il avait avant son incarnation. Il est devenu l'intercesseur. Mes excuses. Oui. OK. Ça arrive de temps en temps avec ceux qui viennent de loin. Mais merci pour ceux qui sont venus de loin. Alors, il y a aussi le Père Jésus-Christ qui a été glorifié en son Fils, qui était vraiment obéissant. Je n'ai pas cherché Actes chapitre 2 au verset 23, mais Jésus-Christ avait accompli les desseins, les plans de Dieu. Il était obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort. Il était soumis à Dieu et ses plans. Et lorsqu'il était mort, alors toutes ces choses ont été vues dans sa vie. Alors il a porté du fruit, il était honoré. Et aussi, en aimant Dieu le Père était glorifié en Jésus-Christ, mais le chemin de la gloire personnelle, n'est-ce pas que nous pouvons atteindre, c'est en servant, en faisant des sacrifices, en nous donnant nous-mêmes aux autres. Alors, cet amour, n'oubliez pas, comme on voit dans 1 Jean, est actif et personnel. Et c'est vraiment la preuve, comme il dit dans le verset 35 au chapitre 13, que c'est la preuve que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Alors, une question pour terminer ce matin. Pouvez-vous dire ce matin que oui, je l'ai reconnu? Et par la foi, j'ai reconnu que j'étais crucifié avec Jésus-Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Ça peut être appelé la vie victorieuse, la vie abondante, mais Jésus veut qu'on expérimente cette sorte de vie. Et il est mort afin que vous ayez cette vie. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il est mort pour le vieil homme, la nature pécheresse. OK? C'est pour le moi qui habite en moi. Et on était crucifié avec lui à la croix. Alors, pouvez-vous le dire ce matin? C'est quelque chose à réfléchir ce matin sur le sujet de notre crucifixion avec Jésus-Christ. Et je n'oublierai pas, je dois donner, elle a disparu. Elle est toujours là. OK, prions le Seigneur. Oui, Père Céleste, merci pour le temps que nous avons eu ensemble ce matin. Merci pour ta parole qui est précieuse, qui est puissante. Et nous te prions que cela soit une bénédiction pour chacun et chacune qui est là ce matin et que nous puissions appliquer quelque chose que nous venons d'entendre ce matin dans notre corps et que nous puissions vivre cette expérience de la plénitude de l'Esprit dans nos vies jour après jour. Je te prie toutes ces choses pour l'avancement de ton royaume et la croissance et l'édification de ton Église. Amen.